On ne va pas changer de registre juste parce qu'on passe au message. On va continuer de vivre ce que le Seigneur veut qu'on vive ce matin. Par rapport à la parole que Ritz a partagée tout à l'heure, j'ai eu cette pensée, on a chanté, on a proclamé « Ta présence, c'est le ciel pour moi ». C'est génial, hein, c'est vrai. J'ai une question à vous poser. Est-ce que le lundi matin, pour vous, c'est le ciel ? Est-ce que toute la semaine, tout ce que vous vivez, c'est toujours le ciel ? Oui ? Non ? Il n'y a pas beaucoup de... Non, hein ? Pourtant, Jésus, dans sa parole, nous dit « Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Sa présence, toujours avec nous. Donc, si sa présence, c'est le ciel pour nous, chaque moment de notre vie doit être le ciel. Et je crois que cette parole de Ritza, elle n'était pas que pour une personne, elle était pour beaucoup d'entre nous. Parce que Dieu recherche des gens qui sont forts, des personnes qui sont fortes. Et on va parler de ça ce matin. Dimanche passé, Ritza nous disait qu'on rate tellement de choses dans notre relation avec Dieu, dans ce que Dieu réserve pour nous, parce qu'on ne prend pas le temps, parce qu'on passe trop vite à autre chose, on ne le laisse pas agir dans notre vie. On ne prend pas le temps d'entrer dans ce lieu très saint, dans sa présence, dans sa seule présence. Et ça a des conséquences pour nous, mais ça a des conséquences aussi pour le monde autour de nous, parce qu'on n'est pas les personnes qu'on devrait être pour le monde autour de nous. Et c'est vrai, quand on réfléchit un petit peu à l'état de l'Église en général aujourd'hui, l'Église occidentale, je dirais, on est pris dans un tourbillon de vitesse, on n'a plus le temps, on n'a pas le temps. Et pourtant, Dieu nous demande de nous arrêter. Combien de fois dans sa parole, Dieu nous dit, mais arrêtez-vous, arrêtez-vous. Alors, il y a un verset, moi, qui m'a interpellé il y a déjà plusieurs semaines et auquel j'ai réfléchi. J'ai dit, mais il faut que je le partage. Mais qu'est-ce que je veux dire sur ce verset? Il est tellement clair, il est tellement simple. Il est très court. J'ai pris que la première partie pour commencer. C'est dans le psaume 68, le verset 29 ou le verset 28, selon les versions que vous avez. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Une autre version, la version Darby, elle dit, ton Dieu a commandé ta force. Ou la version à la colombe, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est la parole de Dieu. Il ordonne, il dit quelque chose. Dans le psaume 33, il est dit, car il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. C'est sa parole. Moi, quand j'ai lu ce texte et que je m'y suis vraiment arrêté, j'ai vraiment été confronté à mes limites. Mes limites humaines, mes incapacités, mes faiblesses. J'ai été confronté à ces moments de ma vie où j'étais persuadé de certaines choses, j'avais la foi et j'avais confiance en Dieu, et puis finalement ça ne s'est pas passé comme je le croyais. Est-ce que ça vous est jamais arrivé, après avoir rencontré quelqu'un qui était peut-être dans les difficultés ou bien avec une situation, une fois que vous retournez chez vous, vous vous dites, ah mince, j'aurais dû dire ça, mince, j'aurais dû faire comme ça? Combien de fois on passe à côté de ce que Dieu attend de nous. Alors parfois c'est nous-mêmes qui nous disons ça, et puis on a fait ce qu'on devait faire aussi. Il ne faut pas tout mettre dans le même panier, mais tellement souvent on passe à côté de ce que Dieu veut qu'on vive. De par notre nature, on manque cruellement de puissance. Et lorsqu'on prend conscience de ça, ça fait mal. Alors il y a plusieurs façons de réagir à ça. On peut s'insurger contre Dieu, on peut lui en vouloir, lui reprocher son inaction, lui reprocher qu'il laisse faire et puis qu'il ne se passe rien. On peut même douter de son existence à un moment donné. Et combien de fois on entend, mais s'il y avait un Dieu, ça ne se passerait pas comme ça, si vraiment Dieu était bon, etc., ça ne se passerait pas comme ça. Mais rappelons-nous que Dieu est capable. Oui, Dieu est capable. Il est tout puissant. Il règne sur la terre, il règne sur tout l'univers. Il possède la puissance et l'autorité. Et un n'est pas plus petit que l'autre. Sa puissance et son autorité sont éternelles. Sa puissance est éternelle. Dans sa parole, si on regarde un petit peu dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu se fait connaître, notamment aussi comme le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Et il attend que les hommes reconnaissent sa toute-puissance, sa gloire, sa grandeur. Mais si on regarde bien, plutôt que de reconnaître sa toute-puissance, les hommes ont voulu s'attribuer cette puissance, ont voulu se l'accaparer, la prendre pour eux. Et on le voit déjà dans le jardin d'Éden. Quand le serpent vantait les vertus du fruit défendu, il a dit à Ève dans Genèse 3, verset 5, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. » Vous connaîtrez le bien et le mal. Vous serez comme Dieu. J'aurai la puissance de Dieu, j'aurai la gloire de Dieu, j'aurai sa force. Et c'est à ce moment-là que Ève vit que le fruit de l'arbre était bon et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle ne s'était pas posé la question avant. Mais là, elle s'est laissée entraîner. Et voilà, on est dans les conséquences de cette chute. Et dans l'Église aujourd'hui, parce qu'elle est composée d'hommes et de femmes qui sont confrontés à chaque instant à leur nature humaine, on l'est tous. On peut être tellement facilement attiré par la force du pouvoir et puis tout ce qui va avec. Ce n'est pas que dans le monde, c'est dans l'Église aussi. Je crois qu'il y a ce risque. Et ça porte un nom, c'est le péché. 1 Pierre 5, les versets 8 à 9, il est dit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » C'est une parole que Pierre a destinée à l'Église, aux anciens dans l'Église, mais aussi aux jeunes dans l'Église. Il le dit bien aux deux, il le dit aux deux. Et s'il met l'Église en garde, c'est bien parce qu'il y a un réel danger. Il ne va pas simplement nous le dire comme ça. C'est qu'on doit être attentif. Être fort, être puissant, selon Dieu, c'est tout autre chose. Ce n'est pas jouer des coudes pour faire sa place. Ce n'est pas fort et puissant selon Dieu. Pour être fort et puissant selon ce que Dieu ordonne, je crois qu'il y a des principes. Il y a des principes qu'on doit comprendre, mais bien plus que les comprendre, on doit les vivre, on doit les expérimenter, ils doivent venir en nous. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que vous faites ici, sur cette terre? Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui, en 2022? Puis en plus, ici à Latcho, bon, on est au soleil, mais pourquoi ici? Franchement, si c'est juste pour venir frotter la poussière des chaises tous les dimanches matins, puis repartir, voilà, il n'y a pas forcément besoin, quoi. Finalement, mais pourquoi est-ce que je suis ici? Pourquoi est-ce que Dieu me place ici aujourd'hui? S'il me place aujourd'hui ici, c'est que j'ai ma place. Mais quelle place? Je vais survoler très rapidement l'histoire de Joseph. Alors, il y en a plusieurs, mais Joseph, le fils de Jacob, le frère de ses 11 frères, vous voyez lequel, hein? Il y a, je crois, 13 chapitres qui parlent de cette histoire de Joseph dans Genèse. Mais il y a un psaume qui résume cette vie de Joseph. C'est le psaume 105. En fait, ce psaume, il résume toute l'histoire du peuple d'Israël depuis Abraham jusqu'à ce qu'il entre dans son pays promis, il résume plutôt tout ce que Dieu a fait pour son peuple. Et on va lire les versets 16 à 21 de ce psaume 105. Il est parlé de Dieu à ce moment-là. Il a appelé la famine sur le pays, il a coupé tout moyen de subsistance. Il a envoyé un homme devant eux, Joseph, qui a été vendu comme esclave. On a attaché ses pieds avec des chaînes, on a enserré son cou dans du fer, jusqu'au moment où est arrivé ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'a justifié. Le roi l'a fait libérer, le dominateur des peuples l'a relâché, il l'a établi seigneur sur sa maison et maître de tous ses biens. Voilà, on a fait les 13 ou les 17 chapitres, je ne sais plus combien, mais on les a tous faits. C'est le résumé. Dans Genèse, il nous est dit, on connaît tous l'histoire, qu'à l'âge de 17 ans, Joseph a fait ses fameux rêves. Ce rêve où il voit sa gerbe qui se tient bien debout et toutes les gerbes de ses frères qui s'inclinent devant lui. Ce deuxième rêve aussi où le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinent devant lui. Au travers de ces deux rêves-là, je crois, Dieu est déjà en train de révéler à Joseph ce qu'il a préparé pour lui. Quels sont ses projets pour lui? Et Joseph, lui, qui est déjà bien mis en confiance par sa relation qui est privilégiée avec son père, il va raconter ses rêves à toute sa famille. Alors, si lui, il n'avait pas encore eu l'interprétation des rêves, ses frères, ils lui ont donné l'interprétation. Hein. C'était clair. Eux, ils ont eu l'interprétation du rêve. Mais vous vous rendez compte, tout le monde va s'incliner devant moi. Vous allez tous vous incliner devant moi. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Ah, il peut y entrer à fond. Vous allez tous vous incliner devant moi. Parce que mon Dieu ordonne que je sois fort. Oui, ton Dieu ordonne que tu sois fort, mais pas au travers de ton ego, au travers de tes muscles. Pas au travers de ça. Et d'ailleurs, le résultat, il est catastrophique, on le connaît. Ses frères ont une telle haine envers Joseph qu'ils sont prêts à le tuer. Alors il s'en sortira miraculeusement, il sera vendu et vendu encore. Mais cette parole, elle reste. Ton Dieu ordonne que tu sois fort, que tu sois puissant. C'était pourtant bien parti avec Joseph. Mais oui, Dieu va l'élever. Dieu va l'élever. Mais au départ, quand on lit un petit peu le texte, à la place d'être élevé devant ses frères, il est humilié. À la place de la gloire, pour lui, c'est le trou noir. C'est la citerne. C'est la prison. Lui qui devait être destiné à gouverner, il est vendu comme esclave pour quelques pièces d'argent. Il connaîtra la prison alors qu'il est accusé à tort. C'est ça, Seigneur, que tu me fais vivre, alors que tu me promettais le contraire. Je l'ai lu plusieurs fois, cette histoire, puis il y a quelque chose qui m'a frappé dans son histoire. Une sorte de refrain qui vient tout le temps. L'Éternel était avec lui et le faisait réussir. Ça revient tout le temps. Joseph, dans sa prison, l'Éternel était avec lui et le faisait réussir. Joseph n'a pas réussi à imposer ce que Dieu avait placé en lui. Il n'a rien pu faire pour que sa famille s'incline devant lui. Il n'a rien pu faire. Pourtant, il avait eu ce rêve, mais il n'a rien pu faire. Mais dans ces moments de détresse, dans ces moments où il n'avait plus aucune emprise sur son avenir, Dieu était avec Joseph et le faisait réussir. C'est, je pense pas, la façon dont Joseph s'était imaginé les choses. ton Dieu ordonne que tu sois fort. Il y a quelque chose qu'on doit découvrir là. Et je disais tout à l'heure qu'il y a des principes qu'on doit comprendre, qu'on doit vivre, qu'on doit expérimenter. Je vais prendre trois versets dans les Proverbes, Proverbes 3, les versets 5 à 8, des versets très connus aussi, un petit peu comme base pour de réflexion par rapport à ça. Proverbes 3, versets 5 à 8. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ma raison me dit quoi ? Et la parole de Dieu, et le Saint-Esprit en moi, il dit quoi? C'est juste des questions que je nous pose, pour qu'on puisse nous les poser vraiment, personnellement. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Tu peux avoir toutes les connaissances. Mais Dieu, au fond de toi, il dit quoi? Reconnais-le dans toutes tes voies. Est-ce que là où je suis, la direction que je prends, les choix que je fais, est-ce que c'est la direction que Dieu me donne? Est-ce que c'est les choix que Dieu attend de moi? Est-ce que, comme ça a été le cas pour Joseph, tu peux dire « Dieu est avec moi » ? Reconnais-le dans toutes tes voies. Il va être là, il va être présent dans tout ce qu'on vit, partout où on est, dans tout ce qu'on fait. Et plus loin, il est dit « Ne te prends pas pour un sage ». Ça m'a aussi fait réfléchir parce que je me suis dit « Mais il y a tant de personnes qui ont reçu peut-être une parole prophétique à un moment donné. Une parole qui vient de Dieu, une parole qui est vraiment parole de Dieu. Par exemple, une direction pour, voilà, tu vas t'occuper de ce quartier, dans ce quartier, t'occuper des enfants, par exemple. Tu vas apporter quelque chose à ces enfants. Et ces paroles, on les reçoit, on les prend, et on fait tout pour tout mettre en œuvre. On y va, on se lance, on fonce. Est-ce que tu es dans le temps de Dieu? Est-ce que je suis dans le temps de Dieu? Parce que si je ne suis pas dans le temps de Dieu, je vais me casser la figure. Je vais encore passer à côté de ce que Dieu a préparé pour moi. Je pourrais peut-être même porter du fruit à un moment donné. Mais après un certain temps, ça ne va pas jouer. Parce que je travaille sans Dieu. Je travaille à contre-courant de ce que lui veut. Crains l'Éternel. La crainte de l'Éternel, au sens biblique, ce n'est pas la peur qui pousse l'homme à fuir Dieu comme Adam l'a fait quand il a péché. C'est vraiment ce sentiment d'être tellement faible, misérable par rapport à la grandeur, à la puissance, à la sainteté de Dieu, du Créateur, de notre Créateur. C'est tellement disproportionné, mais en même temps, il y a une telle dépendance. On est tellement dépendant de ce Dieu tellement grand. On doit comprendre ça, qu'on ne peut être que dépendant de lui. On ne peut pas vivre indépendamment de lui. On ne peut qu'être dépendant de ce Dieu tellement grand, tellement puissant. Sans lui, je ne peux rien. Sans lui, je ne peux rien. Et ensuite, il est dit, détourne-toi du mal. Et je crois que c'est aussi une notion très, très importante pour nous. Il est question ici de repentance. Si je ne suis pas convaincu de péché, qu'au fond de moi, je suis foncièrement mauvais. Tant que je ne suis pas conscient de ça, je vais lutter avec ma propre force. Et c'est cette conviction qu'au fond de nous, on est mauvais qui va nous amener à la repentance. Alors la repentance, ce n'est pas juste « Pardon Seigneur, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois ». La repentance, ce n'est pas ça. C'est reconnaître qu'on est juste perdu sans la vie de Christ en nous, sans son esprit qui vit en nous. On est juste perdu. C'est reconnaître ça. Qui est-ce qui a jamais dit ou entendu dire cette phrase « C'est plus fort que moi, j'arrive pas. Hein? C'est plus fort que moi, j'arrive pas. » Ou bien une autre aussi, dans certaines situations, « Dieu me connaît, il me comprend, il sait où j'en suis. » On essaye de trouver des excuses, on essaye de se trouver des excuses. Parce que passer par la repentance, ce n'est pas évident. C'est reconnaître que oui, vraiment, je n'y arriverai pas. Je n'y arrive pas. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et combien de fois dans nos relations, dans ma relation avec Dieu, il y a une sorte de tolérance que je laisse. Il y a une tolérance qui amène à ce qu'on a chanté tout à l'heure. Ta présence, c'est le ciel pour moi, ce n'est pas toujours le ciel pour moi. Parce que il y a une certaine tolérance de ma part, où je laisse passer certaines choses dans ma vie. Jésus, dans Jean 16, parle du Saint-Esprit et il dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » C'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre. Et quand il nous convainc, quand on se laisse convaincre par lui, ça devient une vérité existentielle. Et ça va nous pousser à la repentance. Et nous faire réaliser que sans la vie de Dieu en nous, au travers de son Saint-Esprit, on est faible, on est sans force. On court d'échec en échec. Est-ce que ce matin, on est prêt à demander à Dieu une vraie vision du péché? Qui nous révèle ce que c'est que le péché dans notre vie. Une sorte de scanner spirituel de notre cœur, de nos pensées, de ce que nos yeux laissent entrer en nous, des paroles, des gestes qui sortent de nous. Alors, je ne parle pas ici d'un déballage public, pas du tout, mais d'accepter d'être placé personnellement face à la réalité de ce qui est en nous. Pour, et il y a un but. Et si Dieu nous permet de vivre ça, c'est parce qu'il y a un but, pour être conduit à une vraie repentance, qui va faire de la place, qui va faire le ménage en nous, pour laisser l'Esprit de Dieu prendre sa place en nous. Et là, c'est lui notre force. C'est lui. Mais pour ça, il faut qu'on lui laisse la place. Il faut qu'il ait sa place dans notre vie pour qu'il devienne notre force. Paul, qui était quelqu'un de fort, quelqu'un qui était là, puis qui savait ce qu'il voulait, qui était décidé pour le Seigneur, il parle de ce que le Seigneur lui a dit. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il y a un endroit dans sa vie où Paul se sentait faible. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est pas logique. Si on commence à réfléchir, c'est pas logique. Quand je suis faible, je suis faible. Mais non, quand je suis faible, quand il n'y a plus rien en moi, plus de capacité en moi, et que le Saint-Esprit peut agir en moi, enfin, alors je suis fort, parce que c'est lui qui agit en moi et qui va agir au travers de moi. Est-ce que vous connaissez les promesses de Dieu concernant votre vie? Est-ce que vous connaissez votre appel? Alors quand on parle de notre appel, on imagine tout de suite, voilà, c'est le but de ma vie. Mon appel, ce n'est pas pour demain. L'appel de Dieu sur ma vie, c'est pour aujourd'hui, pour maintenant. Quel est l'appel de Dieu pour moi aujourd'hui, maintenant, quand je sortirai, quand je partirai? Est-ce qu'on aura confiance en Dieu, peu importe la situation qu'on rencontre, peu importe ce qu'on vit? Est-ce qu'on va lui faire confiance, lui dire, ben voilà, je suis faible, mais avec toi, je suis fort. Est-ce qu'on est prêt à risquer le tout pour le tout pour le Seigneur? De dire, ok, je laisse tomber, je lâche prise. Je lâche prise. Pour que toi Seigneur, tu puisses agir dans ma vie. J'ai préparé ce message, je vous ai partagé que la première partie du texte. Puis hier soir, en allant me coucher, je me dis, mince, j'ai oublié la deuxième partie. Et j'ai vraiment oublié, hein, j'ai été pris tellement là-dedans et je crois qu'il y a tellement de choses. Mais je veux quand même juste prendre la deuxième partie de ce verset. Allons vite. Je vais le trouver dans mes feuilles. Voilà. Psaume 68, 29, je vous ai dit. Hein. Je le retrouve. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Et la suite, fortifie au Dieu ce que tu as fait pour nous. Fortifie au Dieu ce que tu as fait pour nous. Il y a cette partie où Dieu ordonne qu'on soit fort. Mais après, ça continue. Il y a un cheminement, il y a vraiment un cheminement. Et c'est encore là, on pourrait être tenté par nous-mêmes de vouloir faire en sorte que les choses se passent bien, que toujours. Mais fortifie, ô Dieu, ce que tu as mis en nous. Seigneur, fais ce que tu as à faire. Je t'ouvre mon cœur, je te laisse faire, je te laisse agir. Et il y a un but à tout ça. Il y a vraiment un but à tout ça. Il ne veut pas juste qu'on soit fort pour faire beau dans une belle décoration dans ce monde. Dans Jean 14, les versets 12 à 14, Jésus dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes. » Parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. En mon nom. C'est rien de magique. Ce n'est pas juste à la fin de ma prière, dans le nom de Jésus, amen, pour que ça se réalise. Il n'y a rien de magique là-derrière. Il n'y a rien de ça. Mais je peux prier dans le nom de Jésus seulement si je connais son cœur. Si je vis en lui, si lui vit en moi. Parce que si je connais son cœur, je sais ce qu'il veut. Je sais ce qu'il veut. Je peux prier dans ce que lui veut, dans sa volonté. Alors comment mettre en pratique tout ça? Comment entrer pleinement dans cet appel que Dieu nous donne d'être fort? Je crois que c'est mettre en pratique les deux derniers messages qu'on a entendus ici. Si vous ne les avez pas entendus, vous pouvez les retrouver sur le site. Dimanche passé, Ridza nous parlait de cette intimité, de ce cœur à cœur avec Dieu, de ce lieu très saint qu'on a, dans lequel on a à être avec lui seul. Lui et rien d'autre. Lui et rien d'autre. Dans ces endroits-là, il nous transforme. Dans ces endroits-là, il nous équipe. Dans ces endroits-là, il nous rend fort. Pas par nous-mêmes, mais parce que lui prend sa place en nous. Et il y a le message de Dora, il y a 2 semaines. Vous vous rappelez de son message? Pour qui vas-tu semer? Pour qui vas-tu être fort? Est-ce que tu vas le faire pour toi-même? En sachant, parole de Dieu à l'appui, que ça va pas aller, que ça va foirer. Ou alors pour le Saint-Esprit? Rappelez-vous ce verset, Galates 6:8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Est-ce que Marianne, tu peux venir avec le piano? Tu peux faire une petite note, juste pour la fin. Je crois que si on met en pratique ces deux messages, on aura découvert beaucoup de choses. On va être fort, quelles que soient les circonstances. Ce n'est plus les circonstances qui vont faire que. L'Éternel était avec lui. L'Éternel sera avec toi. L'Éternel sera avec nous. Tout à l'heure, Risa disait, le Seigneur veut dérouler son plan sur ta vie, sur ta vie. Seigneur, merci Jésus. C'est une promesse de Dieu. Et il le fera quand tu seras dans ces endroits d'intimité avec lui, dans cette présence où il n'y a que lui. Laisse-toi juste toucher par lui ce matin. Laisse-le te transformer. Laisse-le te purifier. Laisse-le te guérir. Laisse-le te relever. Laisse-le te fortifier. Il est ta force. Il y a tellement de choses qui vont dans la même direction ce matin. Le témoignage que Dora partageait au début, ce témoignage d'Albert, Seigneur, c'est toi, Seigneur, c'est toi. Toi seul de nos vies. Toi seul, Seigneur, dans notre vision. Toi seul dans notre but. Seigneur, nous voulons que ta présence soit le ciel pour nous. À chaque instant, dans les difficultés comme dans les joies, dans la fatigue comme quand on est en pleine forme, dans la santé comme dans la maladie, Seigneur, moi ce matin je veux te dire oui, fais ton œuvre. Fais ton œuvre dans ma vie. Il vous invite chacun à le faire, personnellement, parce que c'est une réponse personnelle. Saint-Esprit, merci parce que tu vis en nous. Merci parce que tu es là. Tu entends nos cœurs. Tu entends nos cœurs, Seigneur, ce matin. Tu entends nos cris, nos appels. Merci, Seigneur, parce que tu n'y es pas indifférent. Bien au contraire, tu réponds. Tu réponds. Parce que tu veux un peuple fort. Tu veux une église forte. Mais une église qui ne dépend pas du vent qui souffle. Une église qui dépend de toi. Seigneur, nous voulons, oui, nous voulons dépendre de toi. Conduis-nous sur ton chemin. Conduis chacun d'entre nous sur ton chemin. Et Seigneur, que là où il y a des décisions qui sont prises ce matin, on veut sceller face à tout esprit qui va vouloir empêcher ces choses. On veut sceller cette réalité qui se passe ce matin dans les cieux, on veut la sceller dans le nom de Jésus. Merci pour ton œuvre au milieu de nous. Merci parce que c'est toi qui agis, Seigneur. Seigneur, je veux te donner toute la gloire parce que tu es le seul Dieu de gloire. Tu es notre Dieu, notre Seigneur. Je te donne, oui, toute la gloire à toi, Jésus. Amen.